RFI, grand reportage, Marie-Pierre Olfand.
Bonjour à tous. Grand reportage nous conduit aujourd'hui au nord du Sénégal, à Saint-Louis. Dans l'ancienne capitale coloniale française, la grande majorité des habitants vit de la pêche. Mais ces pêcheurs subissent ces dernières années les conséquences de l'érosion côtière. Près de 400 sont morts sur leurs embarcations qui chavirent au moment de passer vers l'océan. Dans le même temps, leur quartier est rongé par la mer. Les habitations s'effondrent. Plusieurs familles ont ainsi été déplacées vers l'intérieur des terres. Les mesures du gouvernement sénégalais pour tenter d'endiguer le phénomènes sont insuffisantes, même un an après la visite d'État du président français Emmanuel Macron, qui avait promis des moyens supplémentaires. L'océan, une menace pour les pêcheurs de Saint-Louis. C'est un grand reportage de William Delesseux, réalisation Pierre Chaffanjon.
Les pirogues sont immobiles, les filets ont été rangés. La journée de travail est terminée dans le quartier de Gendar. Des pêcheurs sont assis sur les quais. Beaucoup n'ont pas pris la mer ce jour-là, bien trop risqué.
Les pêcheurs ne peuvent pas travailler parce que c'est très dangereux. S'il y a un bon temps, nous pourrons travailler, gagner de l'argent facilement. Il faut être prudent à la mer. Mais les pêcheurs sont très têtus, sont très tellement têtus.
Vous êtes têtu, vous ?
Non. Moi, je ne suis pas têtu. Je suis prudent. Nos amis, nos frères meurent sur la mer. Ça, c'est pas normal. Il y a un navire qui est là-bas. Il a un accident. En ce moment que je parle, il y a un accident, mais il n'y a pas de mort.
À quelques kilomètres, la houle est forte, la visibilité réduite. Au large, une pirogue est bloquée. Elle ne pourra pas pénétrer à nouveau dans le fleuve et restera avec ses occupants toute la nuit sur l'océan. Pour passer du fleuve à la mer pour aller pêcher tous les jours, il faut emprunter la brèche de la langue de Barbarie. Le percement a été effectué en 2003 par le gouvernement pour limiter les inondations de Saint-Louis. Et l'ouverture s'est agrandie. La zone est devenue dangereuse. Radim Niang est un des plus jeunes de sa famille. Fin novembre, il a failli perdre la vie sur une pirogue. Cette nuit-là, trois de ses camarades dans l'embarcation se noient après une collision dans la brèche. Ils portent un large pansement dans le cou.
J'ai vu les trois morts, j'ai blessé. Je ne peux pas pêcher. Non, mon docteur, il m'a dit, c'est 6 mois le blessé.
Après, vous retournerez pêcher.
Oui, mais tu laisses 6 mois, il va à la pêche pour regarder. 6 mois, tu le blessure n'est pas bon. Moi, je lâche la pêche.
Pour continuer la pêche, il aura besoin de l'avis de son médecin. Awagay prépare le repas du soir dans la rue. Son mari est à l'intérieur et se repose de sa journée de travail. La mère, tous ont l'impression de la connaître. La jeune femme fait confiance à son mari.
La mer est tout pour nous. On se sent en sécurité dedans. Depuis nos ancêtres, on vit de la pêche. Nous ne craignons pas la mer, au contraire, nous sommes à l'aise dans la mer. Cependant, nous prions le Seigneur pour nous ramener à bon port à chaque fois. Maintenant, il est très difficile de vivre de la mer. Aujourd'hui, les conditions sont très dures, mais nous rendons grâce à Dieu. Quand mon mari part en pirogue, je lui demande toujours de veiller à la sécurité de l'embarcation, de tout vérifier avant de partir. Les gilets, l'essence, les vivres. Il ne faut pas plaisanter avec ces choses-là. Et il faut suffisamment de carburant pour aller en mer. Les gilets de sauvetage sont vraiment importants aussi. J'interpelle ici l'État pour qu'il en facilite l'accès aux pêcheurs, car les intermédiaires les vendent trop cher à Gendar. Ces gilets, ils devraient être subventionnés ou encore distribués gratuitement aux pêcheurs. Avec un gilet, on est plus en sécurité en haute mer.
Awagay se souvient alors des siens qui n'ont pas eu la même chance que son mari.
Oui, j'ai perdu des proches en mer. Je rends grâce à Dieu et je prie pour que cela n'arrive pas à mon mari. Mais 5 membres de ma famille ont disparu à jamais en mer. Il faut que cela s'arrête. Nous prions également pour que Dieu nous préserve de nouvelles tragédies et guide les pêcheurs, qu'ils rentrent en paix à chaque fois.
Chaque année, à Gendar, transite près de 90 000 tonnes de poissons. Dans le quartier, on est pêcheur de père en fils, depuis parfois 5 générations.
Les enfants, c'est eux qui travaillent pour la maison, la famille et tout ça, pour les besoins de la famille.
S'ils avaient le choix de ne pas partir.
Non, ils n'ont pas le choix parce que ils agissent sous l'autorité parentale. On n'a pas le droit de dire non. Sauf quand la mère est mauvaise ou en cas de maladie ou d'indisponibilité. Les enfants, ils sont assez grands, ils connaissent tout. Depuis l'âge de 10 ans, ils commencent à s'entraîner à la nage. Ils font de petites pêches. Par exemple, des petits pirogues là. Les enfants amènent ça à la rivière pour pêcher. Ils ont l'amour de la pêche. Parce que tout le monde ici, il n'y a pas de chômage. Ici, il n'y en a pas de chômage. Si tu es à l'âge de 12 ans, 13 ans, on commence à aller à la pêche. Parfois, on va à l'école, mais à l'âge de 15 ans, 16 ans, ils abandonnent pour aller à la pêche et soutenir la famille. La pêche, elle est bonne. Mais ce qui ne va pas, mais c'est la brèche. Notre handicap, c'est la brèche. Seulement, la brèche seulement. On ne veut rien. On veut simplement qu'on répare la brèche. Tout simplement.
Réparer la brèche, c'est le projet du gouvernement pour éviter de nouveaux drames. Pour l'instant, seul un drapeau coloré donne des indications. Rouge, interdiction, en théorie, de prendre la mer. Un dispositif mis en place par Latirfal, adjoint au maire de la ville.
Cette brèche est même aujourd'hui qualifiée de couloir de la mort. Un endroit plus que maudit même. Le débarquement du poisson ne peut se faire qu'au niveau du fleuve. Donc, pour pouvoir débarquer, impérativement, on doit passer par la brèche. Au départ, c'était profond. Les pirogues passaient sans toucher. Mais maintenant, avec les bancs de sable, il est difficile aux pirogues de traverser sans chavirer.
Est-ce qu'il y a des techniques qui se sont organisées entre pêcheurs voilà, pour savoir un peu où passer pour...
Non, bon, les pêcheurs ont épuisé leur technique. Tant que c'était entre guendariens, il y avait peu de morts. Dans la mesure où le guendarien, vraiment c'est quelqu'un qui maîtrise bien la mer, qui sait bien nager. Mais avec la rareté de l'emploi, il y a des cultivateurs qui, une fois la saison de pluie terminée, ils viennent ici. Et vont en mer. Il y a beaucoup de gens qui partent en mer et qui ne savent pas nager. À tel point que s'il y a accident, il y a beaucoup de disparus. Il y a un problème de responsabilité. Dans la mesure où les propriétés de pêcheurs doivent être en mesure d'identifier ce qui embarque avec eux. Mais tel n'est pas le cas. La mer travaille avec les organisations professionnelles, vraiment sur la sensibilisation et les informations avec les services de météo.
Près de 400 morts depuis 2003, sans compter le nombre de disparus. Le danger fait partir les jeunes. Certains, contre la norme sociale, décident de faire des études pour faire un autre métier.
Un jour, lorsque j'étais parti, on avait rempli la pirogue avec beaucoup de poissons. Et là, du retour, on faisait face à de grandes vagues. Et là, l'eau pénétrait dans la pirogue. Et là, j'avais tellement peur du fait qu'on puisse couler. Ça m'est une fois arrivé. C'était à Mauritien.
Comment votre famille a réagi quand vous lui avez dit « Je ne veux pas être pêcheur » ?
Bon, mon père ne m'a rien dit. Je sais qu'il dit qu'il va m'aider à ce que je termine. Mais j'étais de là pour lui rendre grâce. Parce que lui, son souhait, c'est que je puisse terminer mes études jusqu'à devenir une grande personnalité de la nation. C'est son souhait, mon père.
Une solution a été trouvée. Il faut sécuriser la brèche. Le gouvernement du Sénégal a investi 5 milliards de francs CFA, près de 8 millions d'euros, pour draguer et baliser la zone. Draguer, c'est-à-dire creuser pour éviter le déplacement des bancs de sable. Oumar Gueye est le ministre de la Pêche.
La solution a été trouvée. Nous avons fait les études avec des experts néerlandais et la solution d'urgence, c'est le dragage et le balisage. Et c'est sur ça que les ressources sont mobilisées, l'entreprise connue, le planning maîtrisé et en tout état de cause, l'activité va continuer pendant les 5 mois que dureront les travaux.
Le précédent gouvernement est le seul responsable du percement de la brèche, mais le mécontentement envers les autorités est en tout cas loin d'être généralisé à Gendar.
Au pays des musulmans, il faut qu'un dirigeant.
Pour vous, ce n'est pas une erreur du gouvernement, c'est
non,
Dieu.
Le gouvernement ne peut rien faire. Chaque État a un gouvernement, chaque État. France, il y a des morts. La Mecque, il y a des morts. Aram Saoudi, il y a des morts. C'est comme ça la vie.
Loin de l'effervescence des quais, l'ouest de Gendar, la façade océanique du quartier. Certains habitants ont dû partir. Ici, c'est l'érosion côtière qui oblige des familles de pêcheurs à quitter les lieux. La plage se résume à un mur de béton effondré, enchevêtré dans de l'acier rouillé. Mactarndiaye est un jeune activiste saint-louisien. Il constate les dégâts depuis plusieurs années.
Nos grands-parents nous racontent souvent qu'avant, il y a quelques années avant, il fallait marcher 1 kilomètre pour voir l'eau. Et maintenant, on n'a même plus 15 mètres de plage et ceci est forcément lié à l'érosion côtière. C'est triste, mais on n'a que nos yeux pour constater ces dégâts de l'érosion côtière.
Donc on voit ces enfants là qui jouent sur ce qui reste de la plage face à ce mur qui est d'ailleurs rongé par l'océan.
Ça fait longtemps que je n'ai pas vu des enfants jouer au bord de la plage parce que l'eau arrivait jusqu'au mur.
Ah, et donc il était impossible de se baigner.
Impossible de se baigner ni de jouer au foot. Aujourd'hui, on a 15 mètres ou à 20 mètres de plage et c'est déjà quelque chose pour nous.
La houle des derniers jours est allée jusqu'à détruire des habitations. 2 morts dans cette maison en novembre.
Bonjour, je m'appelle Irma Fall. Je suis la fille du vieux qui est mort. J'habite à Saint-Louis du Sénégal. C'est une vague qui est venue frapper le mur et elle a tombé sur mon père. Ensuite, il a l'autre qui mur est tombé sur les enfants et ensuite l'armoire. Et ma maman a crié, il a crié au secours, les voisins ont venu pour ressortir mon père qui était vieux, qui était aveugle même. Donc les voisins faisaient sortir mon papa, ensuite on cherchait les enfants sur les gravats. On n'attendait pas cela. Donc on savait que la mer menace, mais de cette manière on n'attendait pas cela. Donc parce qu'il y a des maisons plus proches que la mer, alors qu'ils n'ont pas détruit de cette manière. Donc c'est une chose qui est venue subitement. On n'attendait pas une chose comme ça.
Est-ce que vous attendez de la part du gouvernement également une indemnisation ou de quoi vous aider dans cette épreuve?
Donc on attend du gouvernement qu'il nous aide. Parce qu'on n'a pas où habiter. Et on n'avait que notre père qui faisait tout pour nous. Donc on n'a plus notre père. Nous sommes seuls avec ma maman et mon frère et ses petits-enfants. Donc on est seuls. On est très vulnérables. Pour le moment, on nous a prêté 2 chambres avec toutes nos familles. Nous nous sommes coincés là-bas.
Sur la plage, une nouvelle digue est en cours de construction par l'entreprise française Eiffage. Un financement de la même origine, l'agence française de développement a déboursé 16 millions d'euros après la visite d'Emmanuel Macron en février 2017. Mais pour Mactarndiaye, la digue ne permettra pas de limiter le phénomène d'érosion.
Cette digue n'a pas tenu le temps d'une houle, malheureusement. Donc l'année dernière, avec la houle, cette digue s'est affaissée. Donc moi, je pense qu'il faut aller vers une solution durable. Je lance un appel, moi, personnellement, aux décideurs. Je lance un appel à l'État du Sénégal. Je lance un appel aux partenaires financiers. Parce que Saint-Louis est en train d'être rayé de la carte du Sénégal.
En attendant un relogement durable, les familles de pêcheurs menacés ont été déplacées dans un campement. Le lieu choisi s'appelle Hariala, c'est à l'intérieur des terres. Dans une grande plaine battue par le vent, quelques logements en parpaing, mais surtout des tentes fournies par les pompiers. Vieux Fall vit dans l'une d'entre elles.
Ici c'est la tente de mon oncle.
Et vous logez où exactement? Où est-ce qu'on peut voir?
Je suis logé ici. Je suis logé ici avec ma mère. Avec ma mère et mes frères et sœurs. Bon, le plus dur ici, c'est, on peut dire, la manque d'électricité. Parce que nous en avons tous besoin de cela. Il y a des lampes qui sont au-dessus des bâches, mais à l'intérieur des bâches, on n'alimente que des bougies ou bien des lampes de solaire.
J'ai l'impression, oui, que le provisoire ici, puisque ce sont des tentes, c'est destiné à être provisoire, a duré. C'est-à-dire qu'il a duré plus longtemps que prévu. Est-ce que cela n'a pas trop duré?
Si, cela a trop duré. Pour nous, ça serait beaucoup plus bien ou bien même satisfaisant pour nous de nous dire définitivement qu'est-ce qui nous attend réellement. Et aussi de nous dire la réalité. Et aussi, nous avons trop attendu ici. Nous avons trop attendu, trop passé de temps ici. Bon, espérons que ça pourra changer un jour.
La Banque mondiale a financé un programme de relogement, mais tous les préfabriqués pour les pêcheurs ne sont pas arrivés. Retour face à l'océan. Jean-Marie Dupart réside au Sénégal depuis une trentaine d'années. Pour lui, il y a des raisons d'espérer. La plage va se reconstruire naturellement, assure ce défenseur de l'environnement.
Depuis 4 ou 5 mois, les niveaux de plage sur la partie océanique de Guendar sont en train de remonter. Et donc l'érosion côtière est en train de s'arrêter petit à petit. C'est moins brusque et moins rapide que l'érosion, mais ça se reconstruit tout doucement.
Est-ce que ce n'est pas un peu grâce à la digue qui a été construite ?
Alors ça, on est certain que non. Donc la digue n'a eu aucun effet sur cet apport de sable, pour une raison très simple, c'est qu'elle a été construite en longueur, et donc elle est l'équivalent exact du mur qui est devant nous, et donc elle n'a pas d'effet pour retenir le sable.
Le sexagénaire a écrit une étude accablante pour le gouvernement sénégalais. D'après lui, c'est le percement de la brèche de la langue de Barbarie qui cause l'érosion côtière sur la plage.
La vraie raison, c'est une erreur humaine. La vraie raison, c'est en premier la construction du barrage de Diama et ou plutôt la mauvaise gestion du lâcher des eaux dans le barrage de Diama qui a entraîné des inondations à Saint-Louis, qui a fait faire un choix d'ouvrir une brèche en pensant qu'on pourrait évacuer l'eau plus vite de Saint-Louis, mais personne n'avait estimé les avatars de la brèche, c'est-à-dire qu'on a fait un choix entre ouvrir une brèche et risquer l'engloutissement de quelques villages en face à quelques kilomètres au sud de Saint-Louis et sauver Saint-Louis. Le problème, c'est que cette brèche, elle a fait ce qu'elle a voulu et elle est passée en 10 ans de 5 mètres à 6 kilomètres. Et aujourd'hui, la nature veut la recombler. Et donc, on a ce phénomène de sable qui se réaccumule dans la brèche et qui est érodé au nord. Et donc, c'est vraiment de l'erreur humaine et tout est lié.
Pour le géographe sénégalais Boubou Sid de l'université Gaston Berger, le recul n'est pas encore suffisant pour définir qui est responsable.
C'est assez compliqué de dire que l'État est responsable, mais disons ce sont les activités humaines d'une façon globale qui ont tendance à amplifier ce phénomène d'érosion côtière qu'il faut véritablement établir une relation avec les changements climatiques. L'État doit, ce n'est pas un problème de précipitation, l'État doit mettre en place un phénomène de suivi et d'observation avec des appareils de mesure de suivi et d'observation de tous ces paramètres pour avoir une idée de comment ça se comporte, leur vitesse, leur orientation, etc., etc. par rapport au trait de côte. Et c'est au sortir de tout cela qu'on peut concevoir et dimensionner des ouvrages qui minimisent, pas qui arrêtent, ça c'est difficile, qui minimisent de façon quand même, c'est ne serait-ce qu'à l'échelle historique, ce phénomène pour permettre aux populations quand même de prendre un peu d'élan, pas d'être déguerpies sous pression.
Afin de trouver une solution durable, des études sur le terrain sont toujours en cours. En fonction des aménagements du littoral sénégalais, mais aussi mauritanien au nord, l'érosion pourrait s'aggraver avec les années. Le quartier des pêcheurs serait alors proche de la disparition. La houle de l'Atlantique attaquerait alors le cœur de Saint-Louis. L'océan, une menace pour les pêcheurs de Saint-Louis. Un grand reportage de William Delesseux, réalisation Pierre Chaffangeon.